rester bien informé sur ce qui se passe. Pas pour aller voir si Pascal porte un chandail sans pantalon sur Twitch.
Je refuse la sexualisation de la femme!
Ah, ça tombe bien. Marceau aussi.
Marceau le midi.
C'est moins 6 degrés sur Québec. C'est ensoleillé. On est gâtés. Je m'attendais à une journée très nuageuse aujourd'hui. C'est tout à fait le contraire de ce que je pensais. 60% de probabilité d'averse de neige pour aujourd'hui. Accumulation de neige de 2 cm, c'est ce qu'on nous mentionne jusqu'à ce soir. Minimum de moins 7 degrés. De la neige pour demain entre 2 et 4 cm. Maximum de moins 3 degrés. Mercredi, ce sera nuageux avec un maximum de moins 6. Jeudi, des nuages avec de la neige. Maximum de moins 8 degrés. Et vendredi, ce sera nuageux avec 60% de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 5 degrés. Samedi et dimanche, ben là, on attendra, ça a le temps de changer, mais de la grosse neige pour samedi et un dimanche plutôt tranquille, alternance du soleil et nuages avec un maximum de moins 5 degrés. Il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, 418-971-1021, 418-971-1021. Prochain sujet, ça fait... je couvre les faits divers, je couvre les activités policières depuis des années et des années. Ce genre de sujet qui m'intéresse. Je pensais jamais voir la fin des Hells Angels. Et actuellement, avec ce que je peux lire, je me dis que les Hells Angels n'existeront plus au Québec dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On a le plaisir d'en jaser avec le journaliste d'enquête à la presse qui a fait des dossiers très intéressants à ce sujet-là. Le titre, « La fin du crime organisé tel que l'on le connaît ». Son nom, c'est Daniel Renault. Bonjour, M. Renault. C'est un plaisir de vous jaser ce midi.
Oui, merci. Bonjour Yannick. Sauf que moi, je n'irai pas jusqu'à prédire la fin des Hells Angels, par exemple.
C'est un vrai journaliste. Ouais. Il connaît son dossier.
Mais
hein?
Est-ce que vous attendiez à un tel changement? Parce que quand j'étais jeune, non. M. Renault, les Hells Angels, c'était eux autres les chefs, là, à Québec du moins. À Montréal, on sait que la mafia prenait énormément de place, mais quand il y avait quelqu'un qui se promenait avec son crest des Hells Angels à Québec, c'était très respecté. Puis aujourd'hui, ben, sont de moins en moins, sont beaucoup plus vieux qu'avant. Ils font plus la pluie et le beau temps dans la ville comme dans le temps. Là.
Oui, bon, mais il faut faire attention. Hein. Il y a plusieurs éléments dans tout ça. La question initiale, c'est est-ce que je me serais attendu à ça? La réponse, c'est non, parce que je me souviens qu'à partir de 2015, à partir du moment où les Hells Angels ont commencé à être libérés, dans la foulée de l'opération Shark, qui a eu lieu en 2009, ben, on répétait ad nauseam que les Hells Angels étaient devenus les rois et maîtres au Québec et qu'ils avaient le contrôle du trafic de stupéfiants sur à peu près 85-90% du territoire québécois. Puis là, j'ouvre une parenthèse, Yannick. Le dossier que j'ai publié ce matin dans la presse ne concerne que le trafic de stupéfiants. Ne concerne pas les autres crimes importants, comme par exemple les paris sportifs. Les Hells Angels, d'ailleurs, dont certains membres ont été en guerre contre la mafia ici à Montréal l'année dernière, ou il y a 2 ans, pour le contrôle des paris sportifs. Donc, les Hells Angels devront probablement se repositionner et revoir leurs activités. C'est certain qu'ils vont conserver un contrôle sur plusieurs territoires de trafic de stupéfiants au Québec, mais force est de constater que depuis un an et demi, ils ont dû céder des territoires. Mmh. Ils en ont cédé certains parce qu'ils ont carrément perdu la guerre. C'est le cas actuellement, selon la Sûreté du Québec, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où c'est Al Boivin, trafiquant indépendant, qui domine actuellement. C'est clair aussi qu'à Québec, Dave Turmel leur donne du fil à retordre. C'est encore une zone contestée. Mais les Hells Angels aussi ont dû délaisser des territoires pour les céder à des groupes émergents dans le but éventuellement aussi de conclure des associations ou des alliances avec eux. Parce que les Hells Angels ont besoin aussi de soldats sur le terrain parce qu'un autre des éléments... qui font en sorte qu'ils ont la difficulté, c'est qu'ils ont des problèmes à recruter, ils ont moins de relève, et il y a toutes sortes de raisons qui font que aujourd'hui ils ne sont plus aussi puissants qu'avant et ils sont contestés. Mais ça demeure quand même une organisation criminelle très forte encore aujourd'hui au Québec et à Montréal.
Monsieur Renault, j'ai une question par rapport à ça, puis je fais un peu de pouce sur celle de mon collègue Yannick, là. qu'est-ce qui s'est passé pour que les Hells Angels ne réussissent pas à trouver, malheureusement, des nouvelles recrues, comme on voyait dans le temps, qui étaient prêtes à parcourir du chemin, à avoir certains comportements de violence, à laisser de côté. On sait que la pauvreté, les milieux, le fait d'aller recruter, c'est encore possible. Les gangs de rue criminalisés le font. C'est-tu parce que c'est plus assez payant d'être au sein des Hells Angels comparativement aux crimes organisés, là, les gangs, je veux dire, organisés qui, eux, rapidement font de l'argent? Ou... Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit plus attrayant d'aller dans des gangs et non auprès des Hells?
Mais là, je pense tout haut, là, puis je réponds à la question en pensant tout haut. Est-ce que les Hells Angels sont devenus une organisation anachronique? Sont-ils encore à jour avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux? C'est sûr que je vais répondre à cette question-là en disant que oui, certains d'entre eux, mais un des problèmes des Hells Angels, c'est leur programme. Puis là, j'emploie un anglicisme, là, c'est comme ça qu'on les appelle, qu'on appelle ça au sein de l'organisation. C'est quoi le programme? C'est tout le processus qu'un individu doit franchir et suivre avant de devenir un membre en règle. C'est un processus qui dure environ 7 ans. Parce que si tu veux devenir membre des Hells Angels, tu dois d'abord être connu d'un membre depuis au moins 5 ans. Et par la suite, tu es parrainé par un membre et tu gravis différents échelons. Tu deviens, il y a différents statuts, il y a hang around, il y a prospect, en français aspirant. Et tu dois aussi répondre aux ordres du membre qui te parraine. Et ce qu'on m'expliquait, entre autres, à la Sûreté du Québec, quand je les ai rencontrés avant Noël, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes criminels d'aujourd'hui, veulent avoir des résultats tout de suite. Ils ne veulent pas être des porteurs d'eau ou des porteurs de valises.
Oui,
ils sont extrêmement rompus, entre autres, en matière de fraude. Les fraudes, c'est payant, ça rapporte de l'argent, ça fait en sorte qu'ils peuvent se procurer des armes à feu, mais aussi, très important, ils sont rendus autosuffisants. C'est que à l'époque, dans les années 80, c'était qui importait de la cocaïne? C'était la mafia. Par la suite, les Hells Angels ont commencé aussi à le faire. Avaient aussi des contacts dans les pays fournisseurs pour réussir à faire entrer la cocaïne. Mais aujourd'hui, c'est plein de ces groupes émergents ou d'individus émergents qui ont des contacts à l'extérieur qui sont en mesure d'importer la cocaïne, souvent bien moins cher, qui sont en mesure d'importer, de produire et de vendre sur les réseaux sociaux toutes sortes d'autres drogues que les Hells Angels ne sont pas capables de contrôler. Donc, ils sont autosuffisants, n'ont plus besoin des Hells Angels et n'ont plus besoin aussi ils ont fait le travail, la job sale pour les grosses organisations criminelles pendant des années. Donc, ils connaissent la rue et ils sont devenus indépendants. Je n'ai fait qu'énumérer certains des éléments qui expliquent la situation d'aujourd'hui.
Daniel Renault, dans votre article La Presse, vous parlez des Hells qui commencent à penser à vendre leur maison puis peut-être s'éloigner un peu plus. Tu sais, on l'a vécu ici à Québec. Il y a des gens qui ont été torturés. Ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Et on me disait que les hang-around dans le secteur de Beauport allaient voir je sais pas comment ils appellent, leur parrain pour dire moi, cette vie-là, je n'en veux plus parce qu'on commence à s'intéresser à ma famille, à mes enfants. Et là, je veux pas impliquer ma famille là-dedans, que les Hells Angels aient peur. Est-ce que c'est une première pour vous ou vous avez déjà vu ça par le passé?
Bien, j'imagine que ça devait être le cas à l'époque de la guerre des motards aussi, durant les années 90.
Ouais.
Moi, j'étais jeune journaliste. Là, j'étais pas affecté au crime organisé à l'époque. Mais quand on pense qu'il y a une guerre qui a fait 160 morts, 160 blessés, y compris des membres des Hells Angels, assurément, ces gens-là aussi devaient avoir une certaine crainte à l'époque. Mais depuis que je suis affecté quotidiennement au crime organisé, depuis la fin des années 2000, je n'ai jamais vu une situation comme celle-là. Mais les Hells Angels ont vieilli. Hein. Se sont aussi embourgeoisés. Plusieurs ont fait leur argent aussi. Ils ne sont plus des parents, ils sont maintenant des grands-parents. Ils ont connu la guerre, ils ont connu la prison. Ils ont, je l'ai dit aussi, des difficultés au niveau du recrutement. Donc, c'est pour toutes ces raisons, j'ai l'impression que, bon, il y a des Hells Angels qui veulent vendre leur maison, quitter les secteurs, et probablement que certains d'entre eux vont tout simplement quitter les rangs du groupe pour aspirer à une vie plus tranquille là, dans le futur.
Si ça arrive, ça, puis qu'on voit pas un démantèlement des Hells Angels, mais quand même une moins grande puissance là, sur les territoires du Québec, entre autres, est-ce que ça va nécessiter autant de violence des gangs en ce moment criminalisés? Parce que j'ai l'impression, honnêtement, qu'il n'y a plus ben de barrières, il n'y a plus ben de choses qui évitent en fait de réfléchir quant à l'utilisation de la violence. C'est-tu parce que justement on essayait de prendre un peu de pouvoir sur les autres gang qui existait? Est-ce que ça va s'amenuiser seulement, selon vous?
Bien, moi, j'ai l'impression que oui, là, puis je ne veux pas être prophète de malheur. J'ai posé la question à la Sûreté du Québec. Évidemment, la police se veut rassurante. La police, là, si vous soulignez certaines déclarations dans l'article, il y a le responsable du renseignement, Pierre-Mathieu Vivier, qui dit que oui, l'arrivée de ces groupes émergents-là va provoquer plus de violence, parce que plus on a des organisations criminelles nombreuses, moins on a de chances de s'entendre et de créer des alliances. Mais du même souffle, M. Vivier croit que on n'est pas rendu à ce que la population soit inquiète. Moi, je suis pas aussi optimiste que lui, mais je veux pas non plus encore être prophète de malheur, parce que depuis un an et demi, des populations qui n'étaient pas habituées à ça, parce qu'ici à Montréal, on est quand même assez habitué à ça, mais quand on pense qu'en Beauce, dans la région de Québec, au Saguenay, on a vu des crimes comme ceux-là, des enlèvements, des séquestrations, des tortures, des coups de feu, un adolescent de 14 ans qui meurt en attaquant un local des Hells Angels, ce qu'on n'aurait jamais pu croire il y a 2 ans à peine. Ben, c'est une recrudescence de la violence. Puis une des raisons, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de grand Manitou tout en haut de la pyramide du crime organisé qui est assez fort pour calmer le jeu. Et tant que ça sera comme ça, j'ai l'impression que la période d'instabilité va se poursuivre encore à Montréal et au Québec.
Est-ce que Martin Robert en mène large à Montréal pour ce qui est des Hells Angels? Ou est-ce que c'est lui le chef des Hells Angels? Et puis...
Non, il n'y a pas de chef des Hells Angels. Les 5 sections au Québec fonctionnent de façon indépendante. Au sein des Hells Angels, il y a des membres influents. C'est sûr que chaque section à son président, son vice-président, son secrétaire trésorier. Il y a aussi un sergent d'armes. Ça, habituellement, ce sont parmi les membres les plus influents des différentes sections. Martin Robert est un des membres influents de la section de Montréal. Au sein de la section de Montréal, il a des membres desquels il est très proche. Ce qui fait que c'est un noyau dur et important et influent des Hells Angels de Montréal, mais ce ne sont pas tous les Hells Angels de Montréal. Et actuellement, Martin Robert ou la section des Hells Angels de Montréal est considérée comme une organisation criminelle d'importance dans la métropole, mais c'est pas suffisant pour imposer, pour contrôler la situation et pour imposer un respect total, comme le faisait, puis c'est pas pour l'encenser, là, comme le faisait à une certaine époque Vito Rizzuto, le parrain de la mafia. Sauf que, je me permets de le dire quand on pose la question en entrevue, je suis pas certain qu'aujourd'hui, en 2025, Vito Rizzuto aurait un contrôle sur la situation lui aussi, parce que ça a tellement changé là, depuis les belles années de la mafia montréalaise, durant les années 90 et 2000.
La difficulté aussi pour les policiers de tenter d'infiltrer ces divers gangs de rue qui font affaire avec des jeunes de plus en plus jeunes. Vous parliez du jeune de 14 ans. T'sais, embaucher un policier pour qu'il fasse l'infiltration, c'est extrêmement compliqué. Mais en plus, on ne peut pas aller vers les plus jeunes. Je veux dire, il faut que l'individu soit policier. Ils peuvent peut-être avoir des sources de l'externe, les policiers, là, mais infiltrer ces groupes-là qui ne font pas facilement confiance.
Moi, j'avoue, on a-tu des jeunes qui peuvent être des
envoyés
spéciaux là-dedans?
Il faut trouver quelqu'un de la bonne couleur. Là.
Ça prend du temps, ça prend des années, c'est une préparation en termes d'années.
Il y a certains gangs où ils n'acceptent pas d'autres couleurs. Les Asiatiques, c'est les Asiatiques. On a les Irlandais, c'est les Irlandais. Fait que c'est extrêmement compliqué pour le milieu policier d'infiltrer ces gens-là.
Mais quand est-ce qu'on entend parler de la mafia asiatique, de la mafia turque, de la mafia russe? Jamais.
Pourtant, elle existe.
Parce qu'effectivement... Oui, parce qu'effectivement, c'est très difficile de les infiltrer ou encore d'avoir des sources au sein de ces organisations-là. Et les grands succès de la Sûreté du Québec des dernières années contre les motards, c'est beaucoup passé effectivement par des agents civils d'infiltration, des témoins collaborateurs ou des gens qui trahissaient l'organisation pour travailler du côté de la police. Mais en 2025, infiltrer, par exemple, les Arab Power, les Profit Boys, on se dit, ça va être difficile, ça va être impossible, mais il faut toujours compter sur l'imagination des policiers quand vient le temps de mener des enquêtes d'envergure. Donc, je peux me tromper, mais ça se peut qu'on voit ça aussi un jour.
Est-ce que ça prend autant d'argent que le disent certains regroupements ou encore ça prenait, parce que le train est passé, une meilleure organisation politique? Où est-ce que le bas blesse?
Je ne comprends pas le sens de la question. Autant d'argent, quoi, pour les policiers?
Pour les policiers, pour assurer la sécurité là, en ce moment de la population, mais surtout, en fait, le démantèlement de ces gangs-là ou un certain contrôle d'information, comme on voyait avant. Est-ce que c'est un manque d'argent? Est-ce que c'est un manque de préparatifs? Est-ce que c'est un manquement politique?
Ben moi, je pense que... un manquement politique, je dirais que oui, au niveau des lois. Des années après l'adoption de la loi sur le gangstérisme au début des années 2000, il faudrait se poser la question, est-ce qu'elle est encore adaptée à 2025? Est-ce qu'on ne devrait pas renforcer les peines, renforcer la loi, entre autres toute la question de la possession d'armes? Donc, je pense que c'est surtout à ce niveau-là, au niveau politique, et au niveau aussi carcéral, comment se fait-il que depuis 2007, on est au courant d'un grave problème qui est celui de l'entrée des téléphones cellulaires dans les prisons ou les pénitenciers, téléphones cellulaires avec lesquels des individus, même qui sont déjà condamnés à perpétuité pour meurtre, continuent de mener leurs opérations criminelles et même de donner des contrats de l'intérieur des murs. Et je sais de quoi je parle, parce que Frédéric Silva, lorsqu'il a mis des contrats sur des gens, y compris sur ma tête, il était détenu. Il a fait ça à partir d'un téléphone cellulaire. Donc, comment se fait-il que ce problème-là ne soit toujours pas réglé? Et moi, je pense que la police, avec les moyens qu'elle a, fait un excellent travail. C'est sûr qu'elle pourrait probablement en faire encore davantage si elle avait plus d'argent. Mais il y a tellement de crimes... toutes sortes de crimes que souvent elle va dans le fond diminuer la pile ou s'attaquer seulement à la pointe de l'iceberg, en particulier lorsqu'il est question de violence armée, lorsqu'il est question d'affecter le sentiment de sécurité de la population. Et c'est le message là, que la Sûreté du Québec envoie ce matin, d'ailleurs, dans mes articles.
Ouais. Monsieur Renaud, ça a été un plaisir de vous jaser ce midi. On invite les auditeurs à aller sur le site de la presse et consulter vos articles qui sont toujours extrêmement pertinents. On apprend plein de choses.
Bon, mais merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée.
Une belle année 2025 en santé.
Oui, merci.
Merci.
Vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
L'excellent Daniel Renaud, journaliste d'enquête à La Presse, qui nous parlait de la rébellion des Hells et le visage du crime organisé qui a officiellement changé. C'est un milieu qui est très complexe. Hein? Tu vois, je suis ça depuis des années, des années. J'étais persuadé que la personne qui en menait le plus large à Montréal, c'était Martin Robert. Mm. Alors que c'est pas le seul. Il y en a d'autres, c'est juste qu'on entend plus souvent parler de Martin Robert. Puis à Québec, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est Gros Gam, c'est Gamache, qui emmènerait très large là, pour ce qui est des Hells Angels à Québec. Mais ils sont un peu plus tranquilles ces temps-ci avec la guerre qui a débuté depuis quelques mois déjà.
Mais c'est qu'on n'a pas regardé notre angle mort, je pense, là, au niveau politique, citoyen, peut-être policier aussi à certains égards, mais en même temps, je suis pas au sein de la police, fait que je sais pas, moi, Sûreté du Québec ou autre, il y a bien des choses qui ne disent pas pour continuer d'évoluer. Mais l'angle mort des gangs là, de rue, de criminels qu'on voyait plus pour s'entretuer entre eux puis faire le trou peut-être dans certaines ruelles pour faire un genre d'image, là, c'est ça qui existait dans notre tête. Mais au final, ils ont pris énormément de pouvoir par tout ce qui était Internet. Puis c'est là qu'on a leurré, c'est là qu'on a erré aussi. Moi, je trouve ça fascinant parce que le Dark Web, il y avait des choses là-dedans début 2010, début 2000. Mm-hmm. Puis ça, là, c'est pour ce que moi, je connais. Fait qu'imagine à quel point il y avait des choses d'autant plus tentaculaire qui existait avant que moi, petite journaliste de Québec, en ait pris connaissance parce qu'à un moment donné, tu mets à parler avec des gens qui t'informent. Là. Fait que ça a été comme des plaques tectoniques, finalement, qui se sont entrechoquées à un moment donné. Là. Ça a créé un tremblement, puis eux, ils étaient déjà prêts.
Oui, puis c'est les victimes collatérales qui sont toujours très inquiétantes. Là. Il y a déjà eu erreur sur la personne, là, il y a de ça quelques mois. Le jeune de 14 ans, qui, lui, était pas blanc comme neige, mais à 14 ans, tu mérites pas de mourir, là. On va se le dire. Puis je sais pas si tu as vu ça passer. Samedi soir, dans le secteur de Saint-Nicolas, à l'hôtel Comfort Inn, ouais. Fusillade, Pascal, il y avait des équipes de hockey qui étaient à l'intérieur de l'hôtel, qui étaient dans le hall, puis qui ont vu le gars arriver avec son gun, puis ouvrir le feu sur un autre individu qui était âgé autour de la vingtaine d'années.
Jeune.
Je veux dire, ça aurait pu être tragique, là, des balles perdues qui passent au travers de la vitre. Merci, ouais. Bonsoir.
Il y en a eu dans les murs de chambre, puis tout aussi, là.
Ah, j'ai pas vu qu'il y avait...
Ouais,
ah,
ouais,
il y avait
une balle perdue, ouais.
OK, mais imagine-toi si ça avait pogné un jeune.
Mais non, l'horreur, tu sais, je comprends ces gens-là qui ont dit hey, « on est traumatisés, nous autres, on va pas dormir, là. » T'es dans un hall d'entrée d'hôtel, entre autres, pour un tournoi de hockey à Lévis.
Ouais.
Je veux dire, comme toi, c'est rendu de la violence partout, sans barrière.
C'est ça, puis ça fait des victimes collatérales. All right, vous avez des choses à nous dire par rapport à ces sujets-là ou autres, 418-971-1021.
Il y avait sur la route un incident du côté du pont Pierre-Laporte, direction nord, le milieu là, de Tablier. La voie de droite était bloquée, là. Il y avait une panne qui était là. Sachez que c'est terminé, mais le temps que la circulation reprenne, comme à l'habitude, ben, il va demander un petit peu de minutes encore.
Midi 57.